17h30 sur Radio Campus, c'est l'heure du STL Info. Poursuivons la découverte de ce vaste monde qu'est l'USTL, l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Et avec aujourd'hui Julien Roche, qui est directeur du service commun de documentation de l'université, donc, et qui va nous parler de la bibliothèque et de la documentation. Bonjour monsieur Julien Roche.
Bonjour.
Donc on imagine une université comme Lille, énormément d'étudiants, des enseignants, des chercheurs. Donc pour toutes ces personnes, la documentation et notamment les livres de référence, c'est quelque chose d'essentiel.
Oui, tout à fait. Dans le service commun de documentation, je crois qu'il y a deux mots importants. Il y a le mot documentation et le mot commun. Commun, ça veut dire qu'on assure un service pour l'ensemble de la population qui travaille sur ce campus ou qui se forme sur ce campus. Ça veut dire les personnels, qu'ils soient enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs ou non-enseignants. Et ça veut dire également les étudiants, les presque 20 000 étudiants qu'on a sur le campus, sans compter les étudiants, bien entendu, en formation continue. Deuxième mot, effectivement, documentation. Ça veut dire que pour ce public-là, on assure un certain nombre de missions qui passent essentiellement par la mise à disposition de documents, de la transmission des savoirs, etc. En un mot, nous venons en appui à la formation, à la recherche qui est organisée au sein de cette université, donc à peu près 20 000 étudiants et 3 000 personnes qui travaillent ici et que nous appuyons dans leurs tâches quotidiennes au sein de cette université.
Alors, l'université existe depuis la fin des années 60. La bibliothèque a été créée à peu près à cette époque-là. Ça veut dire que vous avez un fonds important qui a déjà une base historique, on va dire.
Ah, tout à fait. Alors, il y a une chose intéressante concernant ce campus et qui est assez unique en France. Effectivement, vous l'avez dit, créé au milieu des années 60. L'architecte de ce campus, et de la bibliothèque en particulier, s'appelait Noël Lemaresquier. Et il a conçu le campus de Lille 1 à l'origine en le construisant autour de cette bibliothèque universitaire, qui était un petit peu le fleuron, le fer de lance d'organisation de ce campus-là. Donc ça, c'était vraiment intéressant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en rend compte d'ailleurs, la bibliothèque universitaire reste au cœur du campus, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres régions, est un bâtiment sur le plan de l'architecture qui est assez phare. Alors il faut voir que la bibliothèque universitaire de Lille 1 n'a pris son autonomie qu'à partir de 1993, puisque avant, c'était une section de ce qu'on appelait la bibliothèque interuniversitaire, qui, donc depuis 65, arrivait sur ce campus, section de bibliothèque universitaire, section sciences, au même titre que la bibliothèque universitaire de Lille 2 et de Lille 3, qui étaient également des sections. Même si nous avons un fonds ancien, essentiellement, qui commence à la fin du 18e, essentiellement très riche, 19e, et j'y reviendrai, et 20e, bien entendu, le fonds le plus ancien, le plus riche, les manuscrits et les incunables, c'est-à-dire les documents qui datent des premiers temps de l'imprimerie, donc la fin du 15e siècle, début du 16e siècle, sont aujourd'hui déposés à l'université Lille 3, à la bibliothèque universitaire, dans ce qu'on appelle la réserve commune Lille 1, Lille 2, Lille 3, qui appartient en indivision aux trois universités, mais qui se trouve déposée à Lille 3, qui en assure la conservation et la communication. Par contre, effectivement, tout au long du 19e siècle, a été constitué à l'université des fonds documentaires très riches. Et ces fonds documentaires-là sont déposés à la bibliothèque universitaire de Lille 1, notamment des collections complètes de périodiques et de documents, qui aujourd'hui constituent des collections vraiment de tout premier plan, à tel point que, avec un laboratoire de Lille 1, nous avons monté un projet de numérisation autour d'une partie de ce fonds-là, qui commence à voir le jour et donc à nous permettre permettre de diffuser via Internet, grâce à notre bibliothèque numérique, un certain nombre de documents numérisés. Et dans ce fonds-là en particulier, nous avons depuis les années 60 en dépôt et qui s'est transformé récemment en don, un fonds extrêmement riche, qui est celui de la Société Géologique du Nord, donc une des plus grandes sociétés historiques françaises, qui nous a déposé un fonds très très riche. Pour vous donner une idée, hein, on parle en mètres linéaires en bibliothèque, hein, c'est-à-dire la juxtaposition des ouvrages sur un rayonnage, ça représente environ 220 à 250 mètres linéaires, ce fonds-là, donc extrêmement riche, et donc on espère pouvoir exploiter fortement à l'avenir avec les historiens des sciences de l'ILIN.
Mmh. Alors, on comprend bien l'intérêt de littéraire pour la littérature ancienne et les livres anciens. Par contre, on imagine peut-être pas très très bien l'intérêt de chercheurs actuels, par exemple, pour des travaux qui ont été faits il y a un ou deux siècles. Est-ce qu'il y a un intérêt et en quoi ?
Alors, c'est assez variable selon les disciplines. Je vais être caricatural et on va prendre des exemples extrêmes. L'informatique, qui n'existait pas de toute façon il y a un ou deux siècles, aujourd'hui travaille essentiellement à partir de documentation très très récente. C'est-à-dire qu'en clair, tout ce qui a été produit dans les années 60 et 70, à part pour les historiens de l'informatique, il y en a, hein, il y en aura de plus en plus, même les années 80, aujourd'hui c'est complètement obsolète. Bon, à l'inverse, il y a des disciplines dans lesquelles les documents plus anciens présentent encore un intérêt particulier. Je pense par exemple à la chimie ou à la physique, où des travaux qui datent de 20, 30, 40 ans, parfois plus, sont encore utilisés de manière régulière. Et par ailleurs, il y a également tout un pan de la recherche qui se fait sur l'histoire de la discipline, l'histoire des sciences, l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, l'histoire de la chimie. Et ça, c'est un élément assez important, un élément structurant concernant les formations et la recherche en histoire des disciplines, parce qu'il est important pour un enseignant-chercheur, il est important pour un étudiant, surtout quand il avance dans les années, de pouvoir non seulement connaître l'état actuel de sa matière, mais d'en connaître également la genèse et la façon dont la discipline s'est construite dans une approche un petit peu globale à travers le temps.
Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été à un moment donné, à l'époque, utilisées et qui ont été abandonnées depuis, qui retrouvent un intérêt un siècle ou deux après? Est-ce que c'est imaginable?
Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas enseignant-chercheur de statut, mais quand on discute avec des collègues enseignants-chercheurs, on se rend compte qu'à certaines époques, certaines pistes effectivement ont pu être explorées parce qu'elles correspondaient à l'ère du temps, parce qu'elles correspondaient également, je dirais, à des aspirations. On peut penser à l'eugénisme, par exemple, hein, qui a une époque, a été un petit peu dans l'ère du temps, qui aujourd'hui est un objet d'étude pour un certain nombre d'historiens très intéressant. Donc, toutes ces questions-là, elles trouvent effectivement avec le temps, elles deviennent avec le temps un objet d'étude intéressant pour un certain nombre de collègues. Hein. Moi, je suis historien de formation et effectivement, quelle que soit la discipline, je crois que l'histoire de cette discipline, la façon dont elle s'est constituée, avec les atermoiements, les tâtonnements malheureux, hein, génisme, on en a parlé, tout ça est intéressant en termes de construction de la discipline. Et donc, je pense que la conservation d'archives, mais la consommation également de documentation, hein, publiées à une époque, hein, qui sont donc l'image, le reflet de ce qu'on pouvait penser, créer, produire dans la discipline à un moment donné. La conservation de tout ça, la mise à disposition d'historiens de ces fonds-là, c'est très intéressant pour les historiens de la discipline et c'est également intéressant pour les enseignants-chercheurs actuels pour qu'ils connaissent le passé de leur matière.
Alors, l'université de l'ILIN est une université qui évolue avec des disciplines parfois un peu nouvelles. Comment ce fonds s'adapte aux nouvelles demandes ?
Alors, il faut rappeler ici que le service commun de documentation, c'est un service qui vient en appui, hein, et là, en l'occurrence, en appui à la recherche et à la formation. Donc, effectivement, on est dans une logique de réactivité. Bon, pour cette réactivité, on a un certain nombre d'indicateurs, puisque les choses ne se font pas, je dirais, de manière anarchique, elles se font dans une évolution progressive dans le temps. Et l'un des indicateurs principaux dont on dispose, c'est ce qu'on appelle le contrat quadriennal, c'est-à-dire un engagement qui est signé tous les ans entre l'État et l'université sur des grandes orientations en matière de formation et de recherche. Ce contrat quatriennal, il fait l'objet d'une grande préparation en amont à l'intérieur de l'université, hein, au sein des conseils, au sein des composantes, entre les enseignants eux-mêmes, pour proposer un certain nombre de d'axes. Ce contrat, qui est d'abord un projet, il est discuté au sein de l'établissement devant les différentes instances, puis il est proposé à l'État et il aboutit finalement à une contractualisation avec des éléments financiers à la clé qui sont un petit peu le nerf de la guerre. Bon. Et donc ces axes, ces pistes-là, ces évolutions-là, elles sont complètement intégrées dans cette dynamique, dans cette phase de contractualisation. C'est particulièrement vrai pour la recherche, hein, puisque la recherche, pour le coup, elle peut-être encore plus fortement que les enseignements, est amenée à évoluer de manière forte avec des rapprochements de laboratoires, avec des évolutions constantes dans les thématiques pour s'adapter. Et donc ces aspects concernant la recherche sont très fortement formalisés au sein du contrat d'établissement. Et donc nous avons les éléments d'information suffisants pour après pouvoir transformer, traduire sur le plan documentaire ces aspirations en matière de recherche et de formation.
Alors, on l'a bien compris, il y a un cadre général, une politique générale au niveau des grands thèmes, des acquisitions. Est-ce qu'il y a une réponse à des demandes précises, soit des étudiants, soit des chercheurs ?
Alors, on essaie de concilier effectivement l'ensemble dans une problématique budgétaire un petit peu complexe. Hein. On se trouve dans une université à dominante sciences et technologies. Alors, bien entendu, la part des sciences humaines et sociales, sciences économiques de gestion est importante, mais en matière de documentation, le poids financier des ressources qu'on achète est du côté des sciences et techniques, puisque le coût des bases de données, le coût de l'acquisition des ouvrages est sans commune mesure en sciences et techniques par rapport aux sciences humaines et sociales, sciences économiques et de gestion. Bon. Donc ça, c'est un élément structurant en matière de budget, parce que non seulement le coût est important, mais en plus, au fur et à mesure des ans, il évolue de manière très forte et que les budgets qu'on nous alloue n'évoluent pas forcément dans les mêmes proportions. Ça nous laisse donc assez peu de marge de manœuvre pour adapter nos budgets. Mais on essaie tout de même, effectivement, de concilier à la fois les demandes un petit peu structurantes, hein, qui s'appuient sur le contrat, qui s'appuient sur les axes de recherche, et bien entendu les demandes individuelles des enseignants qui nous font remonter, par exemple, des listes de documents qu'ils distribuent, à leurs étudiants et qu'ils conseillent à la lecture. Bien entendu, on s'adapte pour acheter cette documentation-là. Et puis, au sein de la bibliothèque universitaire, donc, qui n'est qu'un élément du service commun de documentation, mais qui est le lieu un petit peu phare et un petit peu visible et largement fréquenté par les étudiants. On dispose de cahiers dans lesquels les étudiants peuvent inscrire leur souhait d'acquisition. On dispose d'un personnel de renseignement sur l'intégralité des plages d'ouverture de la bibliothèque, qui bien entendu est à même de dialoguer avec les étudiants qui en feraient la demande pour l'achat de telle ou telle documentation dont ils auraient besoin et qui aurait pu nous échapper par l'intermédiaire des prescriptions enseignantes.
Alors, ces livres, ces ouvrages, cette documentation qui est disponible, avec l'avancée du numérique et des supports de numérisation, est-ce que cela fait progresser les façons de faire, les habitudes des étudiants, des professeurs? Est-ce que vous êtes habilité à faire des copies, à distribuer ces œuvres au-delà du copyright?
Alors, une université comme la nôtre, une université comme l'ILIN, est une université, je vous l'ai dit, à dominante sciences et technologiques, et les sciences et techniques en matière de documentation ont une caractéristique particulière, c'est que depuis un certain nombre d'années, presque 10 ans maintenant, le virage du numérique s'est opéré. Mmh. Autrement dit, l'essentiel de la documentation aujourd'hui, pour la recherche en particulier, hein, pour les étudiants, il y a toujours au format papier des monographies, des livres disponibles, des revues de premier recours, mais pour la recherche, l'essentiel de la documentation est toujours aujourd'hui au format électronique, soit au format qu'on appelle mixte, c'est-à-dire au papier et au format électronique, soit directement au format électronique uniquement. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, en titre vivant de périodique, hein, donc en revue papier, on dispose de quelques centaines de titres, c'est plusieurs milliers, voire plus de 10 000 qu'on a au format électronique. Bon. Donc on a passé le cap, effectivement, du virage du numérique, de manière générale. On est en train de le passer en sciences économiques et de gestion. On va le passer bientôt, je pense, parce que c'est une évolution de fond, en sciences humaines et sociales. Ça a une conséquence très forte, c'est que la bibliothèque, lieu physique, lieu dans lequel on est obligé de se déplacer pour avoir un document, document qui est emprunté par une personne et qui n'est plus consultable par d'autres à un instant T, jusqu'à ce que la personne rende le document, tout ça s'est aboli par le numérique. Le numérique aujourd'hui, notamment pour nos enseignants-chercheurs, il nous permet quoi ? Il nous permet d'offrir l'accès non seulement sur l'ensemble du campus. Aujourd'hui, tout enseignant-chercheur, tout personnel, tout étudiant qui a accès à un ordinateur sur le campus peut accéder en direct à l'essentiel, la quasi-totalité de nos ressources numériques, à quelques exceptions près, mais la quasi-totalité de nos ressources numériques sont accessibles sur l'ensemble du campus. Et même au-delà, grâce à des procédés d'authentification, ce qu'on appelle login mot de passe, hein, qu'on connaît tous avec nos messageries personnelles, c'est principalement l'enseignant, un chercheur, hein, qui est concerné, mais grâce à ces login mot de passe, nos enseignants-chercheurs peuvent accéder à tout moment, de tout lieu, à notre documentation. Donc, en clair, lorsque notre enseignant-chercheur en discipline X va être dans un colloque au Japon, il va se connecter avec son portable à l'Internet, et alors qu'il sera 2h du matin ici, il aura accès à ses bases de données, comme il a accès aujourd'hui en venant à la bibliothèque ou en étant à son bureau. Et ça, c'est la révolution du numérique qui lui permet d'imprimer, qui lui permet de consulter quand il le veut, où il le veut, un certain nombre de documents. C'est la vraie révolution qu'apporte le numérique.
Alors, au-delà donc de cette possibilité pour les enseignants-chercheurs de l'USTL d'accéder à la base de l'USTL, est-ce que ces enseignants peuvent également accéder à des bases extérieures, voire très éloignées, États-Unis, Chine, Japon ou autre ?
Tout à fait. Alors, ça dépend de ce que proposent les autres universités concernées. Je pense par exemple aux thèses. Il se trouve que, de manière générale en France, mais même à l'étranger, il y a un mouvement très fort de numérisation des thèses produites par l'établissement. Hein. Donc la thèse, c'est le diplôme ultime produit au sein de l'établissement et qui donc présente en matière de recherche une forte valeur ajoutée. La plupart des établissements aujourd'hui valorisent leur fonds de thèse, qui était juste par le passé consultable uniquement en papier, ce qui nous obligeait à envoyer des kilos de papier à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on est dans une phase de numérisation de ces documents-là ou de récupération pour des thèses soutenues récemment, de fichiers numériques qu'on peut directement mettre dans des bibliothèques. Bon, on en a une, nous, bibliothèque numérique. Il y a beaucoup d'autres universités qui en ont. Ça, c'est l'énorme avancée d'Internet. Ça permet donc, quand la ressource est disponible, parce qu'elle est produite par un autre établissement, une autre université, qu'elle soit au Japon, qu'elle soit en Californie, d'accéder à tout moment, de par le monde, à l'ensemble de cette documentation-là. Quand cette documentation-là, elle n'est pas disponible de manière gratuite, libre, sur Internet, ou que l'enseignant-chercheur n'a pas les codes d'accès qui lui permettent d'accéder, parce que son université a payé des droits pour accéder à telle ou telle base, on a toujours la possibilité d'organiser ce qu'on appelle du prêt entre bibliothèques, la fourniture électronique de documents, que ce soit donc du prêt papier ou du prêt électronique, pour que l'enseignant-chercheur puisse faire venir un document dont il a besoin d'une autre bibliothèque, le consulter, et puis si c'est un document papier, le renvoyer à cette bibliothèque. Donc à Lille-1, la bibliothèque universitaire assure ce service, hein, y compris d'ailleurs avec un formulaire d'inscription en ligne qui permet à l'enseignant, quand il a repéré un ouvrage, quand il a repéré un document, de le demander, de le faire venir, de le consulter, et le cas échéant, quand il vient au format papier, de le renvoyer dans la bibliothèque d'origine. Donc ça, c'est la force du réseau des bibliothèques à travers le monde, hein, qui permet d'accéder à un document pour peu qu'il soit connu, c'est-à-dire pour peu qu'on connaisse l'existence de ce document-là. Ça, c'est le travail des enseignants-chercheurs, de repérer la bibliographie qui existe, de le demander, de le faire venir et de le consulter en abolissant toutes les frontières qui existent entre les pays et les bibliothèques.
Alors, beaucoup d'étudiants, pratiquement tous les étudiants qui terminent leur master ou qui ont ensuite des formations complémentaires et des recherches, publient, font des thèses ou des mémoires. Est-ce que tous ces travaux sont conservés et accessibles?
Toutes les thèses aujourd'hui soutenues en France, de par la loi, sont déposées dans des bibliothèques universitaires. Et donc les bibliothèques universitaires sont garantes, la bibliothèque universitaire de soutenance de la thèse est garante de la conservation de ces documents-là. Par ailleurs, il existe au niveau national deux structures particulières, l'une à Grenoble, l'autre à Lille, ici à Lille 1, qu'on appelle la NRT, la Tenue nationale pour la reproduction des thèses donc de Lille, ici en l'occurrence, dont la mission est de microficher, c'est-à-dire de transformer la thèse papier au format microfiche, de microficher les thèses pour justement permettre leur dissémination à travers les bibliothèques et leur consultation à ce format dans les différentes bibliothèques qui existent. Donc effectivement, les travaux de thèse sont systématiquement archivés, conservés dans les bibliothèques d'universités de soutenance d'origine en France. Et c'est vrai également pour la plupart des pays pays développés qui ont le même réseau de bibliothèques que nous.
Alors, le développement de cette mise en réseau, est-ce qu'elle aboutit à des réels progrès, à une efficacité redoublée des chercheurs, puisque la base étant plus accessible et élargie, on imagine que davantage de choses soient mises en commun, davantage de choses intéressantes.
Alors, tout à fait. Il y a deux aspects. Il y a effectivement l'élargissement de la publication scientifique de manière générale, c'est la disponibilité aujourd'hui de plus en plus de documentation publiée. Quand on regarde un petit peu les grands bouquets de revues dont on dispose, on se rend compte que le nombre de publications augmente de manière très très forte, quasi exponentielle depuis un certain nombre d'années. Ça s'arrêtera à un moment ou à un autre, mais on n'a jamais autant publié. Ça, c'est la première chose. C'est peut-être pas l'élément central. L'élément central, c'est l'immédiateté d'accès. Il y a 30 ans, quand vous vouliez savoir ce qui existait, ce qui était publié ailleurs, vous étiez obligé d'attendre que des bibliographies spécialisées soient publiées, vous compulsiez ces bibliographies spécialisées, vous alliez dans votre bibliothèque de proximité, vous consultiez ce qu'il y avait sur place, et puis il fallait faire venir tel fonds de telle bibliothèque, être sûr qu'elle l'avait. Bref, ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, avec l'accès numérique, avec les catalogues disponibles en ligne, puisque j'en ai pas parlé, mais notre fonds, comme celui de la plupart des bibliothèques universitaires et des services communs de documentation, est disponible en ligne, le descriptif de ce fonds-là. Donc aujourd'hui, on a un accès immédiat à l'information. On sait aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce au catalogue, grâce à l'électronique, que tel document existe à tel endroit et on connaît les modalités rapides pour faire venir ce document et le consulter. Parfois même, ça peut passer par un lien de gré à gré entre deux chercheurs, l'un ayant besoin de consulter l'article de l'autre, qui n'est pas encore publié, mais bientôt, et qui lui envoie au format PDF ou au format Word son article via Internet. Donc on voit que l'information circule de plus en plus, et que donc c'est surtout l'immédiateté, la capacité des anciens chercheurs à disposer des informations peu après leur publication, parfois même avant leur publication officielle.
Alors, je ne crois pas me tromper en disant qu'un chercheur doit en partie sa renommée à ce qu'il publie, à la qualité de ses publications, à la diffusion de cette information. Est-ce que, en plus, maintenant, ce chercheur pourrait être mis en valeur par rapport à l'intérêt que ses publications suscitent, notamment par la consultation informatisée? Est-ce que vous tenez des comptes qui sont valorisés ou valorisables?
Alors, on ne tient pas de compte particulier, mais il y a d'autres personnes qui les tiennent pour nous. C'est ce qu'on appelle la bibliométrie, c'est-à-dire la mesure de la consultation des articles de telle ou telle personne et le comptage du nombre de citations de cet article dans des articles qui lui sont liés. C'est ce que les enseignants-chercheurs appellent le facteur d'impact d'une revue ou d'une publication et qu'on résume sous le nom de bibliométrie. Ce sont des algorithmes très compliqués qui permettent à partir de bases de données de calculer au sein de corpus très larges d'articles au format numérique, de calculer quelle est l'incidence de tel ou tel article, quel est le nombre de citations qu'il connaît dans d'autres articles qui lui sont liés, quel est le nombre de consultations de cet article-là, et qui donc permettent de voir, de faire un hit parade, si j'ose dire, des revues les plus consultées et des articles les plus consultés. Et donc tout ça aboutissant effectivement à un classement de plus en plus fort des revues, avec des revues comme Nature ou Science, qui sont des revues un petit peu phares, dans lesquelles beaucoup d'enseignants-chercheurs aimeraient pouvoir publier, qui ont des facteurs d'impact très, très, très élevés, parce qu'elles ont des niveaux de citation et de consultation qui sont très élevés. Et la conséquence, sur le plan documentaire, c'est que ces revues-là atteignent des prix très élevés, et chaque année, le prix augmente de manière... on pourrait dire parfois déraisonnable. Donc on a effectivement ces outils-là de mesure. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement, dans ce système-là, renforcer la connaissance que les autres enseignants-chercheurs peuvent avoir des publications qui sont celles faites par nos propres enseignants-chercheurs. Et dans cette logique-là, on souhaite développer, ce qu'on fait déjà depuis quelques années, une bibliothèque numérique qui permet de valoriser, on a parlé des thèses, mais on pourrait parler des publications scientifiques produites par les enseignants et déjà diffusées dans des revues payante. On souhaite pouvoir proposer dans une bibliothèque numérique valorisée par l'établissement un certain nombre de publications déjà publiées par des enseignants dans des revues payantes, parce que toutes les études de bibliométrie montrent que la multiplicité, la multitude de mises à disposition de ces textes dans des sources différentes, qui sont les ressources payantes, qui sont les ressources gratuites valorisées par l'université, augmente la visibilité de ces sources-là et donc permet à l'article d'être plus lu et donc à l'enseignant-chercheur d'avoir une meilleure, je dirais, pénétration auprès des publics qui sont intéressés par ces articles.
Alors, une bibliothèque universitaire, un public finalement quand même spécifique et filtré, on va dire. Le grand public dans tout cela, comment il pourrait éventuellement accéder à cette bibliothèque? Il prend une carte à l'USTL, à la bibliothèque, c'est possible?
Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les bibliothèques, ça c'est la tradition, une tradition très ancienne, les bibliothèques sont ouvertes à tous. En d'autres termes, quelqu'un qui est complètement extérieur à l'université, qui n'est pas étudiant, qui n'est pas enseignant ici, aujourd'hui, vient à la bibliothèque universitaire de Lille 1, mais c'est vrai pour Lille 2 et Lille 3, accède à la bibliothèque, s'installe sur une table, prend des documents en rayon, les lit sans difficulté. On ne bride pas l'accès à la bibliothèque. Ça, c'est le premier point qui nous semble important. Par contre, là où on met un filtre, ça concerne l'accès à des bases de données pour lesquelles périmètre est très, très nettement circonscrit, mais qui concerne en général les enseignants-chercheurs, le prêt de documents qui se trouve dans nos rayons, qui là peut consulter peut concerner des publics extérieurs à l'université. En la matière, à Lille 1, on a une politique d'ouverture, puisque on accorde de manière assez systématique, sauf problème particulier, il y a une personne par le passé, on accorde de manière assez systématique à des demandeurs d'emploi une carte à titre gratuit au sein de la bibliothèque pour justement ils puissent emprunter des ouvrages, se remettre à jour dans le cadre d'une perspective de reprise d'emploi. Sachant que pour tout public de manière générale, moyennant des droits d'inscription, il est possible d'obtenir par ailleurs une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter des documents au sein de la bibliothèque de Lille 1.
Alors, monsieur Julien Roche, en termes de conclusion, est-ce que vous auriez un souhait, un vœu pour l'année 2008, par exemple, au niveau de la bibliothèque de Lille 1?
On est actuellement un petit peu à la croisée des chemins concernant la bibliothèque. Je vous ai dit qu'elle datait de 1965. Elle n'a pas été rénovée depuis. On est sur un gros projet de rénovation sur lequel le président que vous avez reçu il y a quelques mois s'investit fortement, sur lequel moi-même je m'investis fortement. Et donc si j'ai un souhait, c'est que ce projet se concrétise en 2008, pour pouvoir être réalisé en 2009-2010, c'est le projet d'extension rénovation de la bibliothèque, tout ça pour que nos usagers, principalement les étudiants, qui sont les usagers qui viennent physiquement encore beaucoup à la bibliothèque, puissent enfin disposer d'une bibliothèque rénovée, une bibliothèque complètement entrée dans le 21e siècle, un vrai outil à leur service pour la réussite de leurs études.
Monsieur Julien Roche, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Dans quelques instants, eh bien, ce sera Villeneuve Mag, animé et réalisé par Noémie Copin. Bonne soirée, à la semaine prochaine.